Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonsoir. Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors, dans ce studio de la rue de la Salie, ce soir, nous avons la joie d'avoir avec nous Simone Allier d'Arom. Simone, bonsoir.
Bonsoir, Christian.
Merci beaucoup d'être venu. Et nous avons également l'accompagnateur de Simone Allier d'Arom, venu la soutenir dans ce bel entretien que nous allons avoir, qui est le poète Claude Barrère. Claude, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être venu donc encourager Simone Allier d'Arom. Alors, Simone Allier d'Arom, nous avons eu le plaisir de présenter déjà à plusieurs reprises sa création poétique. Elle est médecin de formation, et même au-delà, puisque elle a un passé scientifique médical assez prestigieux. Je crois que tu as été illustré dans l'immunopathologie. Voilà. Et donc elle est membre des académies de médecine, hein, et donc académie scientifique. Mais également, elle est maître SGE de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse.
Et l'Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres, ils tiennent beaucoup à ce que je le dise.
Et l'Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres, dont le président est
Michel Boudet pour l'instant.
D'accord. Alors, donc ça veut dire une vie professionnelle qui a été brillante et très bien remplie. Mais au-delà de cette vie professionnelle, donc une poursuite donc de ces activités intellectuelles, tant scientifiques que littéraires et artistiques. Et ceci me semble être particulièrement intéressant parce que les gens qui ont ce vécu, un vécu aussi riche, et qui ont la volonté de pouvoir faire de ce vécu quelque chose, souvent, ce sont ces gens-là que l'on retrouve dans la création littéraire. Et je crois, avec le recul, que c'est un peu le cas de Simone Allier d'Arom. Donc elle a construit, pas à pas, une œuvre poétique, parce que peut-être que la poésie est une espèce de raccourci dans le langage qui permet de dire vite et bien, comme
la photo,
comme la dépêche,
comme la photo,
vite et bien, voilà, comme la photo, de saisir ces monuments. Qui c'est qui avait dit ça? De saisir ces monuments d'instant.
Oui.
Ces monuments d'instant. Voilà. Et bon, c'est vrai qu'il y a la photo qui permet ça. Il y a aussi, et Claude Barrère ne va pas me contredire, il y a aussi, bien sûr, toutes les créations plastiques qui permettent cela. Mais il y a, évidemment, la poésie, c'est-à-dire le langage. Alors, plusieurs publication de Simone Allier d'Arom. Tu peux, s'il te plaît, nous rappeler les titres de ces publications?
Alors, oui, il y a eu le premier jour, ou l'un des premiers, ça a été Écriture, ensuite Émoticône, puis Effluve, puis Des Éphélides plein les poches. Les Éphélides, je rappelle que ce sont des taches de rousseur. Ellipsoïdes, puis Paradis et Bourriffé. Et enfin, Passions effleurées.
Voilà. Alors, la plupart de ces recueils, nous avons eu le plaisir, la chance de faire une émission là-dessus. Donc, vous pouvez toujours y accéder sur les-poètes.fr en allant à la rubrique pour écouter les émissions et aux années antérieures, hein, puisque ce devait être dans les années 2013 ou 2014.
À peu près, oui. À peu près.
Voilà. Alors, Simone, après ses publications, elle réitère Elle réitère en publiant dans un numéro d'Encre Vive, c'est-à-dire c'est une revue qui est la revue Encre Vive, bien connue, la revue de Michel Cosem, qui anime cette revue chez nous ici à Colomiers, et qui fait paraître un recueil entré entier de Simone Alliédaran qui s'appelle Syllabes, donc, et qui constitue le 450e numéro d'Encre Vive que vous pouvez vous procurer chez Michel Cosem, 2 allée des Allobroges, 31-770 Colomiers. Le numéro, le recueil donc vaut 6,10 € et l'abonnement pour 12 volumes vaut 34 €. Vous aurez toutes ces références sur notre site les-poètes.fr. Alors ça veut dire que ce recueil a été immédiatement, bien sûr, diffusé à l'ensemble des abonnés de la revue Encre Vive et figure en bonne place dans le catalogue d'Encre Vive, qui a d'ailleurs un site que l'on peut consulter.
Tout à fait.
Maintenant. Hein, voilà. Donc il est en place. Alors j'ai eu le plaisir de signer la quatrième de couverture de ce recueil, puisque Jean Rousselot, je sais, ça m'étonnait beaucoup. Michel Cosem, la préface, souvent, il la met en quatrième de couverture. Donc, je me souviens d'avoir publié dans les années 90 chez Cosem, et Rousselot, qui m'avait fait la préface, m'avait fait cette réflexion, tiens, comment ça se fait, la préface se retrouve
en quatrième de couverture.
Mais en définitive, cette quatrième de couverture est véritablement la préface du recueil. Et si tu le veux bien, c'est assez court, je vais en lire quelques extraits.
Volontiers.
Alors, je disais ceci, les poèmes comme d'incessants soliloques sur ce qui captive son regard et son âme. Je ne parle de rien, je sais que tout va bien, et j'attends de partir, écrivait-elle. Ça, ce que je citais, c'est dans les recueils antérieurs, comme une conclusion d'une vie saturée d'expérience, dans son dernier livre, qui était donc « Passions effleurées ». Pourtant, avec ce nouveau recueil, qui s'appelle « Syllabes », d'une écriture épurée, d'une grande densité, elle poursuit le chemin, lucide, sur l'impossibilité de revenir en arrière, mais sans rien oublier de ce qu'elle a traversé. La mélancolie, après un si long parcours d'une puissante vitalité, où es-tu ma rebelle, se réfracte dans le regard et elle atteint, sans l'avoir choisi, le plus troublant de sa parole poétique. J'ai accouché de la tendresse. Je veux mourir dans le vent, grignoté d'amour par des vapeurs d'être. La terrible expérience de la vie, des deuils, le temps qui s'effiloche, obscurcissent les jours à venir, elle se voit, sans devenir, comme un mollusque handicapé. Mais l'amour sauve du naufrage, un autre amour, non celui charnel qui lui a été enlevé. Je suis vide de toi, où es-tu passé? Une pluie de peine glacée me laboure le crâne sans cesse. Mais celui impalpable, incommensurable, qui lui permet de se voir par transparence et aller sur un possible infini. Elle sait qu'elle a atteint le discernement et qu'elle veut l'exprimer, comme toujours, avec pudeur. Dans les mots que tu dis, il y a plein de sens cachés. Ce discernement qui, pour percer, fait le vide. Quand tous les arbres qui cachent les forêts seront morts, on verra peut-être par-delà les futaies. Et l'espérance se dessine à l'horizon de la nostalgie de la tendresse. Demain, je deviendrai le souffle. Alors, le souffle, qui c'est qui disait ? C'est André Breton qui disait que la poésie, c'était avant tout le souffle. Le souffle, c'est la vie. C'est pas Simone Alliédaran que l'on va...
Non, je n'avais pas inventé, hein, non, effectivement.
Ça, le souffle, c'est la vie.
Oui.
Donc, finir ce recueil en disant « Je deviendrai le souffle », ça m'a paru véritablement quelque chose d'une puissance énorme. Et tu revendiques cette puissance. Il y a une foi dans, quand même, cet avenir, entre guillemets, ce possible qui se dessine et dans lequel tu devras devenir ce souffle.
Mais j'espère bien, parce que je pense qu'on est coincé en tant qu'être humain entre deux infinis, un infini cosmique, un infini, des tout petites choses, un infini en plus dans notre propre pensée, et que plus tard nous deviendrons effectivement un souffle efficace pour tout ce qui reste, ce que nous avons aimé, que ce soit des choses ou des gens, et que c'est monstrueusement vivant, le souffle.
Oui, c'est évident. Alors, tu choisis cette expression poétique, et je pense à un poète qui a fréquenté Toulouse, puisqu'il a été élève du lycée Pierre de Fermat. C'est un poète que l'on a oublié, qui avait beaucoup marqué quand même les générations 60, etc. C'est Luc de Cône. Luc de Cône qui faisait partie aussi de l'école de Rochefort.
Ah oui.
Qui a dit ceci: la fonction même du poème est de nommer, de préserver, de sauver tout ce qui mérite de l'être face à la misérable activité des larves. Oui, c'est sa façon de voir le quotidien. Seul, disait-il, le poème, il peut donner un sens, un avenir au contenu de l'existence que le temps dégrade, que la bêtise avilit. Bon, on retrouve De Cône, hein, c'est-à-dire Luc De Cône, c'était quand même quelqu'un qui avait son franc-parler, qui est
déblayé.
Voilà, qui déblayait, comme a dit Claude, hein, c'est-à-dire. Il était, pour employer une expression triviale que l'on dirait maintenant, brut de décoffrage. Mais au moins, il met le doigt là-dessus.
C'est vrai qu'on ramasse les instants comme avec une épuisette. Hein. Et que c'est... Et en fait, ça... Le problème du rapport au temps est primordial. D'abord, le temps, ça n'existe pas. Ce que je te dis en ce moment est déjà passé.
Oui, oui.
C'est épouvantable, donc il faut absolument fixer les choses le temps qu'on les a sous les yeux, le moment où on les a sous les yeux. Nous avons une existence tricotée de passé et d'avenir.
Sylvia Plath, qui est grande poète, j'aime pas dire poétesse, grande poète, six années, hein, suicidée à 30 ans, mais quelle œuvre, disait ce que tu dis.
Et ah oui.
Disait, ça me revient maintenant, c'est elle qui disait ça. Elle disait: le poème est un moment d'éternité. Mm. Voilà, c'est saisir des moments d'éternité. C'est-à-dire que dans le poème...
Tout à fait.
Et souvent, dans ton écriture, on va le voir, hein, en lisant les extraits tout à l'heure, cette espèce de flash, de photographie de l'instant, du sentiment qui vient de passer et que tu figes tout d'un coup, c'est aussi...
C'est le caillou dans la mare,
voilà,
avec les ondes, oui, qui voilà, se répercutent, ouais, comme toute sensation se répercute en nous et ailleurs, et dans ce que nous faisons et dans ce que nous sommes.
Alors, qu'est-ce qui, Simone, quel va être ton choix dans ces monuments d'éternité que tu vas devoir... façonner, qu'est-ce qui va t'orienter?
L'émerveillement. Je pense que le poète, en dehors de ses moments de dépression, est un émerveillé de la vie. Il peut être émerveillé par un moindre détail, la moindre lumière.
Oui. Et cet émerveillement, c'est une façon aussi de dire la beauté du monde.
Absolument.
Et dans cet émerveillement, il y a donc, puisque tu vas dire la beauté du monde, qui peut avoir des formes très très inattendu, pas du tout, comment dirais-je, pas du tout emphatique.
Non.
Il y a la notion d'amour. Parce que
oui.
Pour dire la beauté du monde, il faut l'aimer.
Tu peux pas faire autrement.
Voilà. Donc, cette façon de faire de la poésie est aussi, me semble-t-il, une déclaration d'amour au monde.
Oui.
Est-ce que c'est comme ça aussi que tu le...
Oui, je le vois comme ça, oui.
Comme ça.
Je le vois comme ça. Dans mon métier, j'ai vu des choses terribles. J'ai eu des enfants qui me sont morts dans les mains de maladies. Et tu comprends que quand on passe par... On est obligé de passer par-dessus. Et malgré ça, le monde est beau.
Oui. C'est ça qu'il faut, formidable, ce que tu viens de dire. Malgré ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Oui. Et en même temps, quand même... Tu parlais tout à l'heure, tu as dit en dehors des instants de dépression.
Mmh. Hein?
Donc ça veut dire que, bien entendu, cet amour et cette louange du monde, de la beauté du monde, qui peut être extatique quelque part, n'est pas une espèce d'angélisme béat.
Non, pas du tout, mais ça demande d'abord à passer par des acceptations, ne serait-ce que de soi-même, ce qui n'est pas évident. Et de certaines règles, parce que la révolte permanente, ça sert à rien.
Oui.
Ça ne veut pas dire qu'on peut écrire tout à fait des poèmes de révolte contre quelque chose, ça fait du bien, mais ça fait du bien, voilà.
Alors on va, si tu veux bien, on va lire quelques extraits.
Oui.
Deux syllabes. Donc, dans le 450e numéro d'Entrevue. Voilà. Je te laisse lire les premiers textes, si tu veux bien.
Oui, lesquels tu veux que je lise.
Tu as fait le premier, là.
Je n'ai plus de rose. Le lierre pend à ma fenêtre comme une barbe de prophète. Je suis l'exilé majuscule, en survol de terres effacées. J'hiberne, bien à plat sur un fond de nuages, dans un pastel d'Ave Maria. Et pour rappeler ce qu'on disait tout à l'heure, à la fois hier et demain, est-ce que le présent existe à part dans les conjugaisons? Il ne faut pas dire aux enfants que les étoiles sont mortes depuis longtemps, mais espérer que l'arbre d'hiver oublie son squelette au printemps. Je végète de grêle en soleil, gisant vertical, aussi solitaire qu'un banc dans un jardin désert. Les personnages sont en blanc dans le tableau qui les sécrète. Des nuages glissent comme navires en partance entre la haie palpitante des ailes de pigeons. Que ferait-on dans un pays sans lune, sous un miroitement de planètes enfuies? Je n'ai pas de message, je n'ai qu'une chanson à vous dire. À vous, fantômes agglutinés sur les marches de la portée du long fleuve lent, poudrés de mouettes et de cormorans, balancés de croches sur clavier à fond vert dans un soleil de printemps.
Alors, on va faire une petit commentaire. Hein.
Je crois qu'il faut souligner la dimension humoristique aussi dans la...
Pas tellement dans ce recueil-là.
Pas là, hein. Oui, mais pas là, mais elle a une dimension humoristique par rapport à elle-même d'abord, et une grande lucidité dans ses poèmes instants, effectivement, où la sensation est aussi très très présente, quelqu'œil au passage, et aussi des sentiments beaucoup plus alors mélancoliques, au sens où la mélancolie est profonde, surtout dans ce recueil et dans le précédent, oui, dans une partie du précédent.
C'est vrai. Mais, comme je disais tout à fait, au début, cette mélancolie débouche, in fine, là, du recueil, débouche sur, à mon avis, moi, pour moi, c'est l'espérance, avec un grand E, quoi. Quasiment au sens, c'est comme ça que je le ressentis.
Oui, ça défoule sur une note optimiste ou humoristique, souvent, c'est vrai.
C'est une poésie qui dit je, hein.
Oui.
Énormément.
Oui, je n'ai pas de message.
Ah oui.
Je n'ai qu'une chanson, hein, oui. Dit-elle.
C'est une poésie qui dit je.
Voilà. Alors, il y a ça, à vous fantômes agglutinés, donc sur les marches de la portée et du long fleuve lent. Donc, on voit effectivement qu'il y a le cheminement du temps, qu'il y a l'inexorable de la vie qui passe dans tous ces textes et qui laisse des traces. Hein. Je n'ai pas de message, donc il n'y a pas de leçon dogmatique dans cette poésie. Et je pense que Simone Lillard s'en garde bien de donner la moindre leçon dogmatique.
Certes.
Mais par contre, il y a ce qu'elle appelle la chanson, hein, c'est-à-dire le chant, au sens...
Oui, d'où ce qu'on disait tout à l'heure, off, l'intérêt d'écouter en permanence la musique.
Oui. Alors, oui. C'est ça, mais c'est-à-dire que les poèmes, tes poèmes sont un chant aussi, un chant. Et pour reprendre, alors là je vais reprendre une idée qui était très chère à Félix Marcel Castor, qui est un occitaniste magistral. Il disait que les poètes occitans étaient hors chant. Et alors c'était compliqué de comprendre, il me disait, mais toi t'es aussi hors champ, c'est pour ça que t'es avec nous, parce que t'es hors champ. Et moi j'ai trouvé que le chant de Simone, il fait partie de ce hors champ, c'est-à-dire que c'est quand même un chant qui est dans les côtés, hein, qui est... Dans les marges de la vie qui permettent justement d'avoir ce recul, d'avoir, de pouvoir arriver à porter le regard loin, hein, jusqu'à l'horizon. Alors, si tu veux bien, on va continuer.
Sa dimension de rebelle.
Oui.
Qui est présente.
Alors,
aussi,
voilà, bien sûr.
Fait qu'elle fait toujours un pas de côté et qu'il y a ce regard comme ça qui s'exerce, qui vient d'une scrutation aussi, qui lui vient de sa formation aussi, je pense, oui. Et que l'on trouve malgré tout dans cette lyrique qui lui est propre.
Oui. Et quelquefois, je me parle à deux voix. Hein. Et quelquefois, c'est une voix féminine et masculine, ça dépend.
Tout
c'est
à
possible
fait.
Aussi.
Tout à fait, oui.
Possible aussi.
Parfois, oui.
Oui, non, mais parce que dans ma tête, j'ai un double quelque part qui me répond.
Pour saisir ces monuments d'éternité.
Voilà.
Autour de ça.
Ou alors, quand je m'enfonce donc, trop, je m'engueule moi-même, quoi.
Oui, mais heureusement qu'il y a ça, parce que la poésie, c'est ça aussi, hein. c'est de pouvoir, si elle n'est pas, si quelque part, il n'y a pas quelque chose de débridé qui dépasse, et qui dépasse peut-être totalement même la conscience personnelle que l'on a à un moment, hein, dans cette voie prophétique qui est toujours quand même la poésie, et qui existe, hein, chez toi, qui est très forte chez toi. Alors la mélancolie, Claude a souligné cette mélancolie. On va écouter ce texte.
Mélancolie douce, mélancolie ratée, mélancolie mornée, morte saison sournoise impliquée de non-vue, de non-être, planète ébréchée qui tourne, pathétique, sans même de pourquoi. Alors par contre, pour illustrer un moment, un flash, je vais te lire, pas le suivant mais l'autre, parce que c'est vraiment un flash vu sur le pont neuf. Les goélands dessinent des spirales chantantes, au-dessus des têtes périscopiques des cormorans pêcheurs. Et je m'en vais, brinque-ballant, un arc-en-ciel comme marque-page, sous un soleil qui s'est trompé de saison, les joues zébrées d'embrun, au goût d'écume d'orchidée.
Voilà, alors ça c'est... Non, on saisit une vue sur la Garonne.
Hein. Oui.
Ouais, Simone habite près du Pont Neuf, donc elle est à quelques encablures du plus beau point de vue.
Oui, j'ai cette chance.
De Toulouse.
C'est des tables hautaines.
Oui,
c'est des tables hautaines, voilà.
Et il y a.
Qu'elle avait beaucoup plus dans ses précédents recueils d'ailleurs, où il y avait beaucoup de. C'était presque pictural, souvent.
Ouais. C'est vrai.
Oui. Lié aux îles, aux souvenirs, enfin, des airs d'évasion dans les îles.
Mais, je ne sais pas pour toi, Claude, mais moi, quelquefois, enfin souvent, un poème vient d'une phrase qui est dite par quelqu'un d'autre. Et qui résonne quelque chose, ou alors d'une anomalie, ou d'un truc marrant, bizarre, comme celui-ci là. Dans les jardins déserts, l'avenir s'écrit en question. Et quand tu mets la tête en arrière, tu survoles un troupeau de brebis ombrées qui chahutent sur fond bleuté. Ça, c'est parce que quand on regarde le ciel, en mettant la tête en arrière, on voit des nuages. C'est tout.
J'ai laissé mon amour sur le quai, embruni de feuilles dorées, le vent et l'eau jouent dans les clochetons. Sous la pile du pont, les filles emmanchées sur leurs très longues cuisses promènent leur pâleur, leurs cheveux raidis flottent dans l'air douceâtre, cavernicole et étoilé. Alors il y a l'amour là, hein. J'ai laissé mon amour sur le quai, embruni de feuilles dorées. Alors l'amour, c'est Georges Lambrige qui disait l'amour n'est pas qu'échange, il est sacrificiel.
C'est pas faux.
Donc c'est une idée que tu partages.
Oui,
et...
oui, oui.
Est-ce qu'on retrouve ça, Claude, dans les textes de Simone?
Ah oui, 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 oui. Je trouve, et puis. La présence justement sacrificielle de tous ceux qu'elle a aimés et qui sont partis, parce que ces ombres là sont très présentes. Pour la connaître, je sais que elle peut leur parler, elle peut effectivement, et que cela aussi se retrouve dans ses poèmes, ses voix absentes.
Ils sont devenus des souffles.
Ouais. Et l'illustration, c'est suffit de continuer à lire ce que je viens de lire pour que...
Je t'appelle parce que le soir tombe. Je veux que reculent les monts griffus et les noires désespérances. La nuit nous en serre comme une pince nouée. Laisse-moi respirer dans la bulle que nous nous sommes créés.
Alors, laisse-moi respirer, ça veut dire qu'il y a... On dirait un peu une espèce de sorte de révolte un peu contre les ombres aussi, de temps en temps.
De temps en temps, oui. Oui, parce qu'il faut en sortir quand même.
Oui. Parce qu'il y a quelque chose de fatigant dans le...
C'est à la fois rassurant et c'est un huis clos quand même.
Oui.
Donc, il faut vivre.
Bien sûr.
Je te lis le suivant.
Oui.
Le vent, comme une grande main, caresse ma taille et mes hanches. Par la fenêtre, le grand jasmin, ses odeurs envoûtantes d'Orient, blanchissent l'air voluptueux suspendu dans le soir. Les oiseaux se sont tus aux abords de la nuit. Je veux mourir dans le vent, grignoter d'amour par des vapeurs d'être, dans un rêve de demi-sommeil, ou dans le vent du matin, quand la lune est encore là. Te dis le suivant. Mot incompréhensible, ennui incompatible, folle foule indocile, anéantissement éthéré, mort programmée plus vivante que la vie, happée par des algues brutales, au fond d'un goulet sournois, elle est sans devenir. Comme un mollusque handicapé, elle glisse et dérape sur des concepts branlants, le corps gluant désintégré. Tout oublié sur l'oreiller, pensées ancrées dans le duvet, rétablir la connexion délabrée. Quand tu verras le calamar au reflet de lune, les vierges des coins des rues souriront dans leur cage grillagée. Là, c'est un dialogue, voilà. Effectivement, où je m'engueule personnellement. Et tu as remarqué que les petites vierges au coin des rues, au coin des bâtiments, il y a des petites vierges qui sont dans des cages. Qui sont dans des cages grillagées.
Oui. Ce qui était le cas enfin, dans les vieux quartiers, c'est très...
Il y en a encore.
Voilà. Et on retrouve là aussi quand même cette part d'ironie et d'humour dont parlait Claude.
Mais léger.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Léger, il y a toujours cette retenue, cette pudeur quand même dans les textes de Simone. Hein. C'est pas une poésie débridée. Hein,
Non. Vraiment pas.
Un peu.
Mais pas dans... Oui. Alors, on va continuer. Est-ce l'orage? Est-ce le vent? Est-ce les nuages sur les montagnes velours? Est-ce un vieil olifant soufflé par des âmes perdues? Je me noie dans la pluie couronnée d'un arc vert à mille lieues de tout, juste au centre de moi.
Et oui, c'est au milieu de la mer, ça. La mer, c'est magnifique. On est au milieu de tout, au centre de soi.
On pourrait relever les chutes, vraiment, chez Simone, qui sont toujours très, très percutantes. Au centre de moi,
ou
ce que tu as dit sur la tendresse, là, qui...
Ah, je sais le suivant, tiens, je vais te le lire.
Qui est à la fin.
Oui, absolument, oui.
Transparente à la lumière de l'eau, douce et laxe, pseudopode moelleux de notre monde copie de l'autre, dans toute cette nuit, je peine à garder les yeux ouverts. Au bout de plusieurs mois, j'ai accouché de la tendresse. Ça paraît bizarre d'accoucher de la tendresse, mais...
Non.
Non, ça te paraît pas bizarre.
Non. C'est une belle image.
Oui, enfin, moi c'est au contraire. Je pense que... il y a des transformations aussi qui fait que on peut passer... L'amour, par exemple, peut évoluer d'un amour...
Tout à fait.
Incandescent à une tendresse qui ne veut pas dire que l'amour en soit moins fort, même peut-être...
Non, c'est une forme différente, quelquefois même plus profonde.
Plus profonde, parce que moins soumise à des éléments friables, disons.
Oui, c'est l'agapé.
Voilà, c'est l'agapé, oui. Ouais. Voilà. Alors... Écrit dans le vent, écrit par le vent, exilé de partout, éparpillé dans des mondes instructurés, où les couleurs n'ont pas de son, les signes sont des cris réprimés, les instants des morts ajoutés, et le vent ne sait que porter les graines veloutées des peines et des chagrins. Alors là aussi... les cris que l'on laisse au vent, que l'on, un peu comme une bouteille à la mer, écrit dans le vent, écrit par le vent, exilé de partout, les signes sont des cris réprimés. Alors, pourquoi réprimés?
Probablement à cause de la pudeur, justement.
Oui. Mais le fait de ces signes, le fait, après, de les accoucher sur le papier, est-ce que c'est pas une contradiction avec les réprimés?
Non, parce que ils ne te gênent plus une fois qu'ils sont sur le papier.
C'est pas une catharsis, quand même.
Or, quelque chose, ça tient un peu de la catharsis, oui. Un peu.
Oui.
enfin, en ce qui me concerne du moins.
Oui, 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 tout à fait.
Oui.
Elle se libère.
Oui. Oui. Oui, c'est assez cathartique, oui, effectivement.
Mais est-ce que c'est pas aussi une fonction de la poésie? Je reviens toujours à Sylvia Plath, hein, qui se demandait bon quoi écrire d'abord, quel sujet, parce qu'elle avait une vie ménagère, ses enfants, etc. Très tôt mariée à Ted Hux. Et qui, en définitive, n'a pu se libérer, elle, véritablement, que de deux façons. L'écriture, chez lui de l'écriture, et ensuite le sacrifice de sa personne, c'est-à-dire bon, le suicide, mais qui, à mon sens, en regardant l'œuvre de Sylvia Plath, je pense que ce n'était pas... Si quelqu'un, elle a mis la tête dans le four et allumé le gaz, tout calfeutré, mais en même temps, elle a laissé une lettre dans le hall de l'immeuble en disant appelez le docteur untel. Bon. Donc c'est plus un appel au secours.
Plutôt,
elle a déjà fait ça, voilà, c'est un appel au secours et il se trouve que personne n'est arrivé pour la lettre à temps, quoi. Voilà.
Malheureusement, on n'a plus de four à gaz.
Non, tout ça pour dire que l'écriture, comme toute forme d'art quand même, je crois aussi, peut sauver,
oui.
Duhamel qui disait ça, c'est l'art qui sauvera ses cochons d'hommes, il disait.
Moi je crois, mais la sculpture aussi, la peinture, n'en parlons pas, enfin, oui. Tous les peintres que l'on connaît qui sont... pas forcément sauvés, mais qui ont mis sur la toile toutes leurs émotions, même rudes. Heureusement qu'ils ont pu s'exprimer comme ça.
Et c'est ce qui enrichit l'humanité.
Voilà.
Alors, mais ces signes réprimés, en fait, c'est une volonté chez Simone, je crois, de ne pas se prendre au sérieux aussi.
Oui, ça
c'est vrai. Très souvent, la poésie tombe dans cet écueil.
Oui.
Je veux dire que on s'attarde et je crois que
ça c'est sûr, il faut pas faire du nombrilisme.
Voilà, voilà. C'est ça. Il y a pas.
Pas c'est une, ça peut-être.
Pas une fraction de seconde
qui fait que
il y a dans ces textes hein,
cette pudeur aussi et oui. Puis cette retenue.
Oui. Et je dis pas une fraction de seconde. Il n'y a trace du moindre narcissisme. Mmh. Absolument. Ça, il faut, bon. Et je crois que c'est ça, peut-être, la difficulté, c'est pouvoir dire les choses, dire je, sans du tout tomber.
Mais justement, c'est le problème, la manière de le faire, c'est le dédoublement.
Oui.
Tu te regardes,
oui.
Tu te regardes râler, tu te regardes souffrir éventuellement, oui. Mais tu te regardes.
Oui. Avec cette distance, et c'est la distance de la dérision qui donne le discernement, bien sûr. Hein,
qui arrive,
le discernement.
Oui.
Ah. Mais il y a plus que ça aussi. Il y a le fait de se reconnaître dans le cosmos, hein, ce que tu dis. Et ta poésie reste... une poésie cosmique.
Et oui, je suis très... Enfin, je pense que tout le monde est comme ça, mais imaginez, ce monde-là, c'est tout simplement... Ça nous laisse sans voix, quoi. On est sur une toute petite boule de rien du tout, au milieu de... On ne sait pas quoi, en fait. c'est impressionnant.
Oui.
Mais tous ceux qui étudient le cosmos sont des poètes, en fait.
Oui, je crois aussi. Oui. Je le crois. Et ils ne peuvent avoir, quand on regarde, qu'on considère le cosmos, dans l'écrasement de l'immensité, cet abîme d'immensité que l'on a devant soi, on ne peut se sentir effectivement qu'écrasé et n'avoir le premier sentiment, c'est la dérision de soi par rapport à ce...
Oui.
Hein, et en même temps... Et je retrouve ça dans ton texte, en même temps que cette dérision, effectivement, du fait de l'écrasement devant l'immensité, c'est aussi une certaine joie d'en faire partie. Je suis, c'est je suis exact. Aussi, je, fais, je suis partie intégrante du cosmos.
Ben oui, j'espère que quand je partirai, je deviendrai des molécules qui serviront à quelque chose. Ça me fait plaisir. Oui.
Alors, tu vas nous lire ce texte-là, Égaré dans un cosmos.
Égaré dans un cosmos sans limite, sans repère, pantin perdu et viscéré, la mémoire confite de choses oubliées, j'ai déjà vogué loin du monde où mon corps vit. Monde, ô monde, je suis en partance. Je glisse de passage en passage.
Alors là aussi, le passage, hein. Je glisse de passage en passage. Est-ce que la vie n'est en fait qu'une traversée de passage ?
Tout à fait. Je crois.
Puis il y a cette partance. Hein. Avant, elle parlait de voyage. Maintenant, elle parle de partance.
Ah oui.
Bon, il faut dire que ce texte, je l'ai écrit quand ma mère était vraiment au bout de sa vie. Et effectivement, on la voyait de passage en passage.
Je comprends très bien. Alors, ce qu'a dit Claude m'interpelle drôlement. Ce qu'il a dit, avant elle parlait de voyage, maintenant elle parle de partance. Le voyage...
En principe, le voyage, on en revient.
Voilà, c'est ça, on a deux sens, c'est Ulysse. Hein. Oui. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un bon voyage.
A fait un bon voyage, puis s'en est retourné.
On revient. Tandis que la partance...
C'est bon, plus définitif, oui, ça c'est sûr.
Voilà, on part, mais il n'y a pas de retour et on...
Ben non.
On va peut-être dans ce que tu appelles s'égarer dans un cosmos...
Sans limite.
Sans limite, hein. Dans le fruit ouaté de la ville derrière moi, j'aime que mon souffle épuisé vampirise les rires rebondissants. Être seul avec eux qui ne le savent pas. Je nourris mon pauvre squelette de leur rotondité dodue. Distiller le silence dans le bruit, tel un pulsar dans un monde d'oubli, je veux de la vie être l'unique. Désir d'un dieu factice. Là, un texte.
Super, un texte.
Oui. Alors, c'est quand on est confronté à un texte comme ça, là, qu'on se dit vraiment, la Simone, elle parvient vraiment à ce qu'on appelle le summum, quand même. Hein, je crois que quand tu es là, dans la plénitude absolue de. Moi je l'ai.
Une belle densité dans ce texte.
Oui, une très grande densité. Et comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas le seul à avoir remarqué cette extraordinaire densité. Alors c'est pour ça qu'il faut vraiment lire ce recueil, bien entendu, ce que l'on peut en extraire de l'écouter. Il faut véritablement le confronter ensuite à la lecture. Il faut acheter ce recueil, donc Syllabes. Aux éditions Encre Vive. Alors, il y a la ville, le décor de la ville, que l'on va retrouver, et qui est le décor du quotidien. Hein. C'est-à-dire, bon, la ville, on ne s'en débarrasse pas, tu vis dans un milieu urbain.
Tout à fait.
Et elle est là, mais le bruit de la ville t'est tellement familier que tu dis qu'il t'est ouaté.
Hein? Oui.
Donc il y a une douceur, ce remue-ménage de la ville, ne te dérange pas tant que ça, c'est une douceur qui est derrière toi. Hein?
Elle trouve même à parler de la nature dans la ville.
Mais oui. Ben, je suis une citadine forcenée, moi, de toute façon. Tu me mets à la campagne, j'ai peur des abeilles.
Alors, je nourris mon pauvre squelette de leur rotondité dodue.
Et oui, ça c'était parce que je voyais passer des filles, de jeunes qui riaient, qui étaient toutes rondelettes.
Oui, tu en parles dans d'autres textes dont on se recueille de ça. C'est une
la jeune fille, elle est c'est très présent dans
c'est beau, tête. C'est beau les voilà. Petites filles, les jeunes filles, voilà, c'est jeunes magnifique. Filles,
sur leurs longues jambes, très longues.
Très longues cuisses.
Très longues cuisses. Voilà, mais. Parce que on pourrait évoquer aussi le corps quand même, hein, à propos de cette poésie.
Oui.
Peut-être pas dans ce recueil, mais dans d'autres recueils,
oui, mais il ça, est très j'ai présent. Été médecin quand même.
La sensation, le... Enfin, je ne sais pas ce que
si, si,
ce qu'en pense
raison.
Simone, mais peut-être moins dans celui-là. Mais...
Oui, le corps c'est important, le toucher c'est primordial.
Le toucher, voilà.
Ouais, toucher c'est primordial. Même avec les malades, hein. Faut les regarder dans les yeux, ce que on oublie d'apprendre aux gens maintenant.
Ah oui.
Et les toucher.
La rébellion. Où es-tu ma rebelle, dont parlait Claude.
Où es-tu ma rebelle? Effondré dans quelque conque, noyant ton incompréhensible amour dans un temps sans nom et sans avenir, embouti de désillusions comme autant de feuilles non nées, les mains tendues vers le rien et les regards perdus au pied des montagnes. Vagues et vents, les plaques de lumière étalent, baignent le mur d'écluses sous la broderie d'oiseaux. Des envies de printemps dans la structure épigée d'un nid. Être seul quelque part, ailleurs, n'importe où, vagues et vents, sans mensonges, sans grand jour, me voir par transparence. Ça, c'est important.
Oui. Alors, pourquoi c'est important?
Eh bien, parce que, d'abord, la transparence, c'est magnifique. Et puis, justement, c'est une façon de se regarder à l'intérieur. Il me semble.
Oui. Oui, de voir sa vie interne.
Oui. J'aime bien le suivant.
Oui.
Peut-être un peu plus facile. Toujours évidemment avec les bords de Garonne. Hein.
Oui.
L'ombre des pigeons recoule sur la façade. Je ne peux que parler d'amour. Dans les racines des arbres, dans les futaies sombres, dans les nuages qui se bousculent, dans les yeux de la fille là-bas qui détecte une flamme sur un possible infini, dans les pas de la nuit qui vient, copie de la nuit d'avant, fantasme de nuit lumineuse ou obscure, dans la pluie que nous ne serons pas, dans nos yeux qui savent, plus qu'au-delà des années longues, je ne peux que parler d'amour, dans nos poings mêlés, cri s'incruste en cri, nous sommes sous le même orage.
Donc ce que l'on disait...
Voilà une chute.
Hein, oui.
Nous sommes sous le même orage. Ouais.
Alors figurez-vous que cette phrase n'est pas de moi.
Ah.
C'est un ami qui est mort récemment, qui me téléphonait pour tout à fait autre chose, et effectivement il y avait un orage faramineux, et il m'a dit nous sommes sous le même orage. Je trouvais ça très beau.
Il faut le noter.
Voilà. Je note beaucoup.
Ah, c'est encore plus joli si c'est véritablement
sorti du contexte.
Ah oui, oui. Tout à fait.
C'est d'ailleurs ça la poésie,
oui,
c'est pouvoir interpréter quelque chose
mais
dans
je sais,
l'écart.
Je ne sais pas vous, mais moi je note sans arrêt. Hein.
Bien sûr, tout
et si tu ne notes pas, tu l'oublies, hein. C'est parti.
Ouais. Alors on parlait de... Je ne peux que parler d'amour, hein. Donc là on retrouve ce qu'on a dit au commencement de cette émission. Donc à la fois cette... cette fringale d'amour, je trouve, dans ces textes. Hein. Fringale d'amour, je ne peux que parler d'amour dans nos poings mêlés qui s'incrustent en cris. Hein. Je trouve que c'est beau, ça. D'avoir, de pouvoir dire comme ça, ben oui, j'ai une fringale d'amour.
Hein. On n'en est pas tous là.
Hein.
On n'en est pas tous là.
Mais il faudrait.
Ben oui.
Ce qui est terrible. C'est que ça marche pas.
Ça veut pas dire que ça marche, mais On a besoin quand même de beauté et d'amour.
Encore une fois, je crois que...
Dans le désir de langue, dans le désir de langue, il y a le désir d'amour, dans le désir de la langue, me semble. Il faut parler du désir aussi.
Oui. Et encore une fois, on pourrait citer ce qu'avait dit Henri Hurtubise, vous étiez présents l'un et l'autre cet après-midi, où il disait que si la poésie n'avait pas pour vocation de chanter l'amour du monde et d'être partie prenante dans cet amour des choses, des gens et de tous les êtres et de tout le vivant, ce serait scandaleux. Hein? Nous sommes tous d'accord là-dessus.
Ah, tout à fait.
Voilà. C'est ce que tu dis magnifiquement dans ce recueil.
Je vais te lire celui-là.
Oui.
Dans 20 ans, dans 30 ans, le fleuve sera déjà revenu. La goutte d'eau sera déjà partie. Un cercle sans vie, sans fil aura été coupé. Voix sans paradis, gouffre sans parole passerelle, horreur sans pardon. Toi sans moi, moi ailleurs.
Oui.
On va pas terminer sur ça.
Non. Ah, je vais vous lire sur le. Voilà, creuse sous la pierre. Tu veux bien? Creuse sous la pierre, il y a la statue cachée. Dans les feuilles des arbres, il y a plein d'oiseaux. Dans les mots que tu dis, il y a plein de sens cachés. Dans les regards pudiques, il y a plein de liens. Dans les trous de la brique, dans les arceaux mouillés, il y a le passé de nos mondes. Dans le fond de la pierre, il y a le poème déjà fait.
Ah, très beau texte.
Belle conclusion.
Voilà. Donc, nous allons le prendre.
Je ne suis pas sûr qu'il soit déjà fait, moi, pour moi. Hein. Est-ce que...
Non, moi non plus. J'espère même qu'il n'est pas déjà fait et que... pour moi, ce recueil n'est pas du tout. Ce n'est que un passage.
Oui, il y en aura d'autres.
Voilà, un passage, il y en aura d'autres. Alors, nous allons terminer là-dessus. Je rappelle le nom du recueil, Syllabes, de Simone Allier-Daran, qui constitue le 450e numéro d'Encre Vive, que vous pouvez vous procurer. Donc, 2 allées des Allobroges, 31-770 à Colomiers. Nous avons la chance d'avoir des éditeurs dans la région. Donc, le numéro vaut 6,10 € et l'abonnement 34 €. Merci beaucoup, Simone. Merci,
merci Christian. Code.
Dans les quelques minutes qui nous restent, je vais, si vous le voulez bien, faire quelques annonces sur des livres qui seront développés dans les semaines suivantes. Alors, il s'agit tout d'abord et toujours d'un éditeur toulousain, qui est les éditions RS, de la collection Peau et Psy, qui est dirigé par Daniel Faugeras et qui vient de publier un très beau livre qui s'appelle « Jet de poèmes dans le vif de Fukushima ». Alors, c'est un nom très compliqué puisque je n'ai jamais pratiqué le japonais, mais le nom de l'auteur est de Ruachi Vago. Ça s'écrit Vago, W-A-G-O, accent circonflexe. Vous trouverez bien entendu tous ces renseignements sur notre site les-poètes.com. FR, d'autant plus que le bon de commande, je pense, de ce livre, je fais signe à Claude qui me le confirme, les coordonnées donc de ce livre est sur notre page d'accueil du site dont les-poètes.fr. De quoi s'agit-il? C'est un très beau livre qui est traduit du japonais par Corinne Atlan et qui dit ceci: minuit, sixième jour après le séisme, il ne faut pas oublier Fukushima, tandis que de nombreux habitants partaient se réfugier ailleurs, j'ai choisi de rester seul dans mon appartement pour assembler mes pensées sous forme de tweets, avec radiation et réplique pour compagnon de route. Dans ma cellule solitaire, ma seule pensée était que ma propre vérité se trouvait dans les mots, et uniquement dans les mots, nulle part ailleurs. Je m'efforçais de ne penser à rien d'autre, alors que la société s'écroulait, que la vie pouvait m'être arrachée à tout moment. Je m'agrippais à cette seule vérité comme un enfant au bras de sa mère. C'était mon seul soutien. Cette nuit-là, j'ai envoyé plus de 40 tweets. J'ai intitulé « J'ai deux poèmes », la série de messages que j'envoie. Voilà. Et donc, ce livre reprend, bien entendu, dans l'intégralité, les tweets qui ont été envoyés. Donc, on est là dans la modernité absolue. Donc, c'est-à-dire que même les tweets... je n'en use absolument pas pour ma part, c'est pas du tout bon monde, mais bon, il semble donc que les tweets puissent bien sûr faire œuvre de poésie. J'en ai eu un au hasard. Dans la maison sur la colline, il y a une grande fenêtre. Dans le cœur de la famille qui y vit, il y a une fenêtre. Dans les nuages qui flottent, une fenêtre. Dans la mer au loin, une fenêtre. Dans les bosquets, une fenêtre. Dans le vent aussi, une fenêtre. Dans les cyclamens, une fenêtre. Voilà. Alors, je crois savoir que c'est Philippe Berthaud qui nous a annoncé ça la semaine dernière. La Cave Poésie donnerait lecture de ses tweets, justement, de ce recul. Voilà. Et puis, très vite, dans la minute qui nous reste, Jean-Michel Maulpois, le voyageur à son retour, qui paraît chez Le Passeur Éditeur, qui est dirigé par Dominique Sampiero dans la collection Littérature, et qui fera l'objet d'une émission, bien entendu, intégrale, car vraiment c'est un très beau volume. Hein. Rappelons que Jean-Michel Maulpois est agrégé de lettres modernes, qu'il enseigne la poésie moderne et contemporaine à l'Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Il est le directeur de la revue Le Nouveau Recueil. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, poésie, critiques littéraires, essais, parmi lesquels Une histoire de bleu, L'instinct de ciel, Chute de pluie fine et Pas sur la neige. Donc nous aurons le plaisir de voir avec Jean-Michel Maulpois de quoi il retourne dans ce magnifique livre de poèmes. Voilà. Eh bien, Claude et moi, nous allons remercier Simone Aliédaram d'être venue ce soir, rappelant encore le titre de son recueil, Simone Aliédaram, Syllabe. Merci beaucoup, Simone. Claude,
merci Christian
d'être venu.
Merci à toi de continuer à animer vraiment ces émissions.
Vraiment. Voilà.
Et Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie et de Racine in la Terre qui va nous succéder à la semaine prochaine à Dichast.